autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour un extraordinaire voyage à remonter le temps sur les traces des premiers artistes de la préhistoire dans la grotte de Lascaux à l'occasion de l'ouverture au public de Lascaux 4, réplique grandeur nature de la fabuleuse grotte ornée de Dordogne. Nous vous proposons une visite guidée de ce chef-d'œuvre de l'art pariétal, guidée par Yves Coppens, notre plus éminent paléontologue devenu protecteur de Lascaux, qui nous fait le plaisir de partager son émerveillement, sa compréhension et ses interrogations sur cette extraordinaire caverne de l'humanité qui, je cite l'écrivain Georges Bataille, ne peut cesser de renverser qui la découvre. Autour de la question pourquoi et comment reconstituer la grotte de Lascaux, partager l'émotion et le mystère qui s'en dégage, bienvenue pour un retour aux origines de l'art et de notre humanité.
Moi, j'ai déjà vécu des sensations extraordinaires, mais vraiment extraordinaires sur la paroi. On peut sentir le geste du peintre. On se dit que le peintre n'est pas loin, enfin voilà, on le sent encore.
Bonjour Yves Coppens.
Bonjour.
Vous aussi, comme Francis Riggenbach, qui a dirigé le projet Lascaux 4, vous avez ressenti la présence de ces artistes qui ont peint, dessiné sur les parois de la grotte de Lascaux il y a quoi, 18 000 ans, 20 000 ans?
Oui, 20 000 c'est trop froid, hein. Donc c'est plutôt 18
000. C'est plutôt 18 000.
Pas tout à fait, moi je n'ai pas ressenti ça tout simplement parce que je ne suis pas artiste. Donc je n'ai pas pu me mettre dans la peau d'un artiste, mais je comprends très bien qu'un artiste qui copie et qui a l'envie de copier le mieux possible, ressente les coups de crayon, les coups ratés, les coups repris, la manière de tous les trucs des artistes pour attraper un dessin, etc. Moi je ressens plus volontiers le Panthéon de ces hommes. Je veux dire qu'ils ont représenté des animaux qui sont mythiques, des animaux qui emmènent ces hommes vers les enfers ou les cieux ou les dieux. Et c'est plutôt cet aspect-là que je ressens, c'est-à-dire plus que les peintres eux-mêmes, leur croyance,
leur imaginaire.
Oui, oui.
C'est ce que vous aviez ressenti quand vous l'avez visité pour la première fois, alors la grotte, la vraie grotte de Lascaux, hein, l'original, à l'âge de 13 ans, vous y avez entraîné vos parents,
C'est-à-dire que j'ai un certain âge, hein, j'étais déjà passionné. Depuis l'âge de 7 ans, je crois, enfin, ce sont les souvenirs que j'ai essayé de rechercher dans ma tête et puis dans mes papiers. Je crois que c'est depuis l'âge de 6 ou 7 ans que je suis vraiment épris d'archéologie et de préhistoire et d'antiquité. Et donc, quand j'ai su que cette grotte existait, qu'elle était ouverte au public, j'ai poussé mes parents qui ont bien voulu marcher. Et avec une vieille 301 Peugeot, je me rappelle de la voiture, la 301, nous sommes descendus en Dordogne avec papa, maman, ma sœur et moi, c'est le cas de le dire.
Pour visiter la grotte de Lascaux, qui était alors ouverte au public.
À l'époque, oui, grande ouverte. Oui. Ça a été d'ailleurs une partie de ses problèmes ensuite. Oui.
C'est ça, elle a été fermée au public en 1963. Alors je rappelle tout de même, Yves Coppens, que vous êtes l'une des plus éminentes figures de la paléontologie mondiale, hein, aujourd'hui, découvreur de Lucie, professeur au Collège de France. Et donc depuis 2010, président du conseil scientifique de Lascaux. Vous avez été nommé par le ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, avec une double mission en fait, à la fois pour préserver la grotte originale, qui était donc fermée au public depuis 1963, et aussi pour la faire découvrir, mais d'une autre manière, par des répliques.
Tout à fait. C'est-à-dire que ma mission est double, enfin était et est toujours double, puisque je suis toujours président de ce conseil. C'était d'une part la conservation le mieux possible et le plus longtemps possible des peintures et des gravures, parce qu'il ne faut pas oublier les gravures. Et d'autre part, à partir du moment où on ferme la grotte et à partir du moment où on pense que chacun dans le monde a droit à toute la connaissance de ce monde qui est le nôtre, il fallait la reproduire pour que les gens aient accès à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a fait ces reproductions sur place, Lascaux 2, Lascaux 4, et c'est pour ça qu'on a fait un Lascaux 3 pour aller aux gens qui, eux, ne viendront jamais.
Une exposition itinérante, qui voyage actuellement.
C'est ça, maintenant elle est à Tokyo. Elle est à Tokyo. Elle a commencé à Bordeaux, enfin, je vous dis ça rapidement, elle a commencé à Bordeaux, elle a continué à Chicago, où j'y étais, où je me trouvais avec M. Cazot, qui à ce moment-là était président du conseil général, devenu conseil départemental. Et puis elle est partie à Houston, Montréal, enfin elle a circulé en, Afrique, en Amérique du Nord, et puis ensuite en Europe. Et là, bien sûr, je l'ai accompagnée à Paris, à Genève. Et puis elle est partie en Extrême-Orient, en Corée, et puis maintenant au Japon, avant d'aller en Chine.
Oui. Voilà, elle ira ensuite en Chine. Mmh. Donc, LASCO 2, LASCO 3, LASCO 4, aujourd'hui, facsimilé, 76 ans après sa découverte, par hasard, en fait. Ce sont des enfants qui ont découvert la LASCO en 1940.
Oui, c'est devenu une légende, bien sûr. Ce sont quatre enfants, il en reste un, qui était là l'autre jour, d'ailleurs, un des quatre, hein, et qui ont suivi, enfin, la légende, c'est qu'il y avait un petit chien, le chien est descendu dans un trou, il poursuivait un lapin ou quelque chose, et puis, intrigué par ce trou, ses enfants, le lendemain de cette balade du chien, sont descendus par le même trou, et puis, avec quelques lampes qu'ils ont souvent, puisque ces pays sont des pays de grottes, ils sont allés visiter, voir un peu ce qu'était ce trou et ont été émerveillés par les peintures qu'ils ont aperçues. Et ce que je trouve fantastique, ça c'est typique d'une certaine école française quand même, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés tout de suite avertir leur instituteur, raconter l'histoire à leur instituteur.
Qu'ils avaient découvert.
Je trouve que c'est un très bel hommage à l'école.
Ça se passait
à l'école publique.
Absolument. Ça se passait en 1940, la découverte de la grotte de Lascaux. Pourquoi aujourd'hui Lascaux 4 ? Parce que c'est une grotte qui est extrêmement fragile, qui est toujours vivante.
Oui, parce que enfin, ça a été un de mes souhaits dès le début. Moi, j'ai été nommé à la présidence de ce conseil en janvier 2010. Et quand je suis allé voir la grotte pour avec cet habit, si je puis dire, pour la première fois avec Frédéric Mitterrand et puis la préfète, c'était une préfète à l'époque, de la Dordogne, je lui ai dit qu'il fallait sanctuariser cette colline parce que malheureusement, le Lascaux 2, qui est superbe, mais qui n'est qu'une reproduction partielle de la grotte, était beaucoup trop proche. Alors le résultat, c'est que les gens y venaient, mais ils venaient en voiture. C'est qu'il y avait un parking installé, littéralement à la porte de la grotte principale. Et comme la grotte originale et originelle, elle est à quelquefois 5 ou 6 mètres de profondeur seulement, elle n'est pas indifférente, malheureusement, à ces gaz des voitures et à cette perturbation extérieure.
Voilà pourquoi il a fallu installer Lascaux 4. Donc,
en pied de colline.
En pied de colline, pour ne pas abîmer la grotte originale de Lascaux. Autour de la question comment reconstituer la grotte de Lascaux, je propose une visite guidée tout de suite de Lascaux 4 au micro d'Alus Milo, qui a eu la chance de descendre avec Guillaume Colombo, le directeur donc, du nouveau Lascaux, et l'archéologue Jean-Pierre Chadel, ambiance souterraine.
On y est, hein, la température, 13 degrés, on a 80% d'humidité. On voit la lumière un peu tamisée, camouflée dans des lampes à graisse, dans des plaquettes de calcaire qui symbolisent les lampes à graisse, de manière à donner le plus possible une impression d'immersion dans la vraie grotte. On est presque dans la vraie grotte, si on se laisse aller, on a vraiment l'impression d'y être. Et donc c'est là que les visiteurs sont confrontés pour la première fois à ce qu'est un milieu souterrain. Et c'est là qu'ils vont déambuler d'abord dans la première galerie, puis dans la deuxième galerie, quasiment en situation de 1940, puisqu'en fait la grotte dans laquelle nous nous trouvons depuis quelques minutes est reproduite telle qu'elle était en 1940, quand les quatre garçons sont arrivés par hasard ici.
Derrière moi, vous voyez ce grand éboulis, cette espèce d'argile glissante sur laquelle les gamins sont descendus dans la grotte le jour du 12 septembre 1940.
Donc l'orifice qu'on voit en haut de cet éboulis est donc le trou par lequel les quatre enfants sont rentrés.
Et voilà, c'est le trou de la découverte. Et on voit les stalactites, et ils ont, dans leur récit, ils ont expliqué qu'ils avaient des stalactites qui leur chatouillaient désagréablement le dos. Avec leur tout petit éclairage, ils n'ont pas vu les premières peintures. Il a fallu qu'ils rentrent dans le couloir suivant, où là, les voûtes sont un petit peu plus proches. Et là, avec leurs lampes, ils ont commencé à voir les premières figures.
Tout de suite, quand on arrive, c'est la première chose qu'on voit. On a cet espace très minéral et puis ces couleurs et ces formes qui nous sautent aux yeux. On retrouve cette profusion de couleurs, de pigments ocre jaune, de pigments ocre rouge, de pigments noirs. Et les deux particularités de Lascaux, ce qui frappe, sont un, la taille des représentations. Les peintures font plusieurs mètres d'envergure. C'est vraiment une particularité importante à Lascaux. C'est à Lascaux qui est encore la plus grande peinture connue à ce jour de la période préhistorique. 615 animaux qui sont dans cette grotte, soit peints, soit gravés, et qui peuplent, on va dire, le bestiaire imaginaire de la grotte de Lascaux.
Un bestiaire fantastique, Yves Coppens, il y a toujours une licorne, une sorte de licorne à l'entrée.
Oui, il y a cet animal qu'on ne sait pas définir et qui fait partie probablement des mythes, des légendes de cette époque, qui reçoit les gens en quelque sorte, qui est à l'entrée. Les grottes ne sont jamais peintes n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a des structures. Ce qu'on trouve à l'entrée, on ne le trouve pas dans la suite, et ce qu'on trouve au bout de la grotte, au fond de la grotte, ce sont aussi des peintures particulières.
À chaque fois, des peintures particulières. Il y a la vache renversée, il y a les chevaux chinois, il y a des cerfs qui nagent, des cavalcades de taureaux.
Ce sont des signaux, enfin, ce sont des codes, en quelque sorte. Vous avez raison, le diverticule axial, c'est le cheval renversé. L'autre diverticule, qui est beaucoup plus long, se termine, mais il faut ramper un peu, par une zone où il y a des carnivores qui sont représentés assez mal, d'ailleurs, qui sont gravés assez mal, mais qui gardent au fond le fond de la grotte en disant pas plus loin, c'est fini ici.
Enfin, il y a des signaux.
Oui, moi je suis convaincu, mais enfin.
C'est pas seulement les animaux qui chassaient et qui représentaient comme ça, c'est vraiment une histoire.
Non, ce ne sont pas les animaux qui chassaient, parce qu'au contraire, leurs sandwichs sont aux rennes, à la viande de rennes, alors que les rennes sont très peu représentées. Je veux dire qu'ils étaient suffisamment sales, ces peintres, pour jeter leurs ordures par terre, et on a retrouvé tout ce qu'ils mangeaient
pendant qu'ils peignaient à
midi, c'est ça. Tout ce qu'ils avaient comme casse-croûte. Et en fait, ce sont des casse-croûtes de viande chassée, bien sûr. Et ces animaux-là ne sont pas représentés sur les parois. Donc je pense que, enfin il n'y a pas que moi, que ces parois représentent des animaux d'un mythe que ces jeunes gens invités peut-être, racontaient au fil de la visite. Et que des encadrants, des prêtres peut-être, enfin les prêtres du temple, enfin, leur faisaient réciter au fil de la visite.
C'était devant, un parcours, devant c'était les une peintures. Visite aussi. Hein.
Je pense à ça, hein, mais il n'y a pas de confirmation de ça, mais ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on pourrait raconter soi-même si on avait le contenu du mythe, on n'en a que le contenant.
Il y a des signes un peu mystérieux, mais on ne peut pas les déchiffrer.
Oui, c'est ça. Ça, c'est souvent oublié, c'est dommage. C'est l'association, justement, de ces peintures animales qui sont superbes et qui ont retenu surtout l'attention. Il y en a 600. C'est l'association avec des signes abstraits. Il y en a 400, quand même, 400. Et c'est évidemment l'association abstrait-concret qui fait sens, quoi, qui a un sens.
Il y a une
ponctuation, en quelque sorte.
Le sens, les mystères, hein, les secrets de la grotte de Lascaux, source d'inspiration depuis 20 000 ans pour les artistes et les poètes et jusqu'au musicien argentin Alex Crigier. Dans son album Hombres de Piedra, il chante La Caverne de Lascaux.
Ouais, c'est formidable, ça.
Tinieblas de un sueño borroso. Camino a los tumbos por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Sigo mi camino.
explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Soltado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios.
Elle vous inspire,
oui,
Yves Copin, la caverne de Lascaux, signé Alex Criguier, musicien argentin sur RFI. C'est un cadeau d'Apolline, hein, de l'autre côté de la vitre, exprès pour vous.
Ah, formidable, je trouve ça très, très original et j'ignorais absolument cette chanson et cette inspiration, mais c'est plaisant. Surtout pour quelqu'un d'Argentine qui parle espagnol, et l'Espagne fait partie de cette grande zone franco-dite franco-cantabrique, qui est peuplé par les mêmes gens, sûrement, et qui ont fait les mêmes peintures, ça, on le sait évidemment.
Oui, les grands tournées, il y en a en Espagne,
Altamira,
en France,
par exemple. Oui. Alors j'ai eu tout de suite, d'ailleurs, dans mon équipe, dès les premiers temps, dès 2010, le conservateur d'Altamira.
De la grande tournée d'Altamira.
Qui s'appelait Lacheras, et qui, hélas, vient de se tuer dans un accident de voiture. Mais je veux dire qu'il était précieux de l'avoir, parce que lui aussi avait des problèmes. Nous avions d'autres problèmes.
De préservation, des problèmes de préservation de ces grottes, oui. De conservation, oui. même quand elles sont fermées au public.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que la fermeture, qui a été surtout l'œuvre de Muriel Mauriac, qui a tenté cette attitude-là, a été bénéfique. C'est vrai que ça a permis de stabiliser les écosystèmes animaux ou végétaux de l'intérieur de la grotte.
Parce qu'elle est vivante, la grotte, elle vit toujours.
Oui, c'est ça.
Il y a des petits insectes, il y a des...
Oui, bien sûr. Et puis, il y a une humidité, il y a une température, et tout ça est un peu influencé, un peu, mais je veux dire que ça met un certain temps à parvenir à l'intérieur de la grotte, mais un peu influencé par l'extérieur, c'est-à-dire que la grotte, au fond, est dépendante de la météorologie, quoi.
Il y a du gaz carbonique aussi à l'intérieur de la grotte. Ça peut être dangereux d'y rester trop longtemps ou de descendre dans le puits.
Il y a du gaz carbonique dans beaucoup de grottes et on en connaît les raisons et les origines. Mais le puits, moi j'ai visité le puits de manière exceptionnelle, mais il fallait faire attention. Il y avait des jours où on ne pouvait pas descendre parce que l'épaisseur de dépôt de gaz carbonique était trop stagnante.
Mais ce qui veut dire aussi que ces peintres artistes de la préhistoire, il y a 18 000 ans, pouvaient aussi ne pas rester trop longtemps dans cette grotte.
C'est possible qu'ils aient pris conscience de cette histoire-là, peut-être à leur dépens d'ailleurs, mais il n'y a pas de raison que les conditions aient changé, les conditions météo peut-être, mais les conditions générales de l'intérieur de la grotte qui reçoivent la météo extérieure 6 mois après, en gros. C'est amusant d'ailleurs.
Ah oui, il y a un délai.
Ça met un certain temps à traverser les parois, oui.
Et elle est en bon état, la grotte, du coup, aujourd'hui.
Ah oui. Elle est très,
très, taches noires,
elle est très, très belle. Elle est toujours fragile. Et on reste toujours très vigilant. Et on n'a pas tout résolu. Il ne faut pas s'imaginer que ça y est, c'est le miracle, on a tout fait. Ceci dit... elle est maintenue dans un état somptueux, superbe. Il n'y a pratiquement pas de dommages. D'ailleurs, il y a eu des dommages naturels. Je veux dire qu'entre 18 000 ans et 1940, il y a eu des dommages. C'est-à-dire que de manière naturelle, elle-même s'altère. C'est-à-dire que c'est une grotte karstique. Ça veut dire que c'est creusé par l'eau de pluie, l'eau acide. Et cette eau continue à faire son œuvre et continue à faire des trous. Et à terme, évidemment, elle disparaîtra.
Mais les couleurs sont toujours là, les magnifiques
couleurs. Sont magnifiques, oui. Elles sont magnifiques. Et on a toute l'histoire des couleurs parce qu'on a retrouvé les couleurs sur le sol. Donc on a, au fond... La palette du peintre.
Des peintres préhistoriques. Autour de la question pourquoi et comment reconstituer la grotte de Lascaux, nous poursuivons cette fabuleuse visite, j'en perds mes mots, aux origines de l'art et de notre humanité dans 3 minutes. Vous restez avec nous, bien sûr, Yves Copins, car nous sommes loin d'avoir percé tous les mystères et tous les secrets de ce chef-d'œuvre de l'art pariétal. A tout de suite. Les grandes voix. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la deuxième partie de la visite de Lascaux 4. La réplique grandeur nature de la fabuleuse grotte de Lascaux, chef-d'œuvre de l'art pariétal, que nous découvrons avec le célèbre paléontologue Yves Coppens, qui dirige le conseil scientifique de Lascaux et qui nous fait partager l'émerveillement absolu, le frisson qui nous saisit, mais aussi toutes les interrogations que soulèvent encore et toujours ces œuvres magiques, farandoles de taureaux, cavalcades de chevaux, licornes, hommes à tête d'oiseaux, signes étranges, peints, dessinés et gravés sur les parois de ces roches, il y a 18 000 ans par ces artistes préhistoriques dont il a fallu retrouver les gestes autour de la question comment reconstituer la grotte de Lascaux. On écoute l'éclairage in situ de Francis Ringenbach qui dirige l'atelier des facsimilés du Périgord. Il est interrogé par Charlie Dupiot.
Là, vous avez ce cheval orange qui rentre dans le poitrail de la vache qui est rouge. Ça, ce sont les zones les plus complexes à reproduire parce que vous n'êtes pas du tout en monochrome. On a vraiment une superposition. On essaye de comprendre comment ont procédé les peintres de la préhistoire. Donc, quand on travaille sur ces parois, ben, on voit que ce n'est pas quelque chose qui a été jeté au hasard, mais il y a eu une grande réflexion. Et ça, c'est très impressionnant. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous émeut souvent. Je me souviens du moment où nous avons restauré Lascaux 2, le moment où nous avons peint le troisième taureau. Les taureaux font jusqu'à 5 mètres. Mais en étant sur un échafaudage, je me retrouvais en face de la tête de ce taureau, mais je ne voyais pas ni le ventre et je ne voyais pas la partie arrière. Et du coup, première réflexion, comment ont-ils fait ? Oui, mais on peut vivre des sensations extraordinaires parce qu'on se dit que voilà, le peintre n'est pas loin. Enfin, voilà, on le sent encore. Comment ont-ils pu réaliser une œuvre immense, titanesque ? Comme ça, à cette époque, à ce moment-là, en ayant des moyens très très rudimentaires, avec un éclairage très faible, nous avons le privilège de voir leur œuvre aujourd'hui, telle que nous pouvons la voir en images éclairées. Mais eux ont réalisé une œuvre extraordinaire dans l'obscurité. Il y a vraiment une maîtrise et une connaissance extraordinaire. Et pour ça, extraordinaire peintre de la préhistoire.
Extraordinaire peintre de la préhistoire, Yves Coppens, comment ? Comment ils ont pu travailler sans échafaudage, quasiment sans lumière ?
Oui, enfin, ils avaient les deux quand même. Hein.
Ils avaient échafaudage et lumière, il y a 18 000
ans. Oui, enfin, la lumière, évidemment, elle était modeste, mais on a trouvé dans les restes... Le sol a malheureusement été détruit pour faciliter les premières visites, de manière un peu inconsciente. Et on a ramassé, sur ce sol original qui lui a disparu, une quarantaine de lampes. Alors, les lampes les plus ordinaires, c'est simplement un caillou qui est un petit peu creusé, qui est un petit peu concave, et dans lequel on met un peu de graisse et puis une mèche pour éclairer un tantinet. Ceci étant dit, 40 lampes, évidemment, elles n'étaient pas toutes allumées en même temps, mais un certain nombre de lampes, ça change un peu les choses. Et par ailleurs, des échafaudages, il y en avait sûrement, puisqu'il y a encore les trous des insertions des échafaudages dans certains endroits. Et la manière dont les bois ont pénétré la paroi et ont été installés, pour peindre, par exemple, le plafond de ce qu'on appelle le diverticule axial, qui est le...
Oui, parce que le plafond était peint aussi, hein, voilà. On appelle ça la chapelle Sixtine de la préhistoire, oui. Parce que le plafond de la grotte était peint aussi.
Oui, c'est ce qui est impressionnant et oppressant à la limite dans ce petit couloir qui est si petit, si étroit qu'on se heurte aux parois, c'est que c'est peint à droite, c'est peint à gauche, c'est peint au-dessus. C'est vraiment, ça vous enveloppe véritablement.
Et vous dites qu'on a retrouvé...
Alors on n'a pas retrouvé le bois des échafaudages, on a retrouvé les trous dans la paroi où s'inséraient les échafaudages, et on a retrouvé un petit bout de corde. Alors on n'est pas sûr qu'il soit contemporain des échafaudages, mais un petit bout de corde végétale torsadée qui a pu correspondre à un morceau de l'attache de ces échafaudages. Donc des échafaudages, il y en avait sûrement, parce que, encore une fois, le plafond est très haut. Et d'autre part, les lampes existaient aussi. Il y a une lampe superbe, une lampe qui est décorée, qui est magnifique, mais qui est seule. Et dans le facsimilé d'ailleurs,
dans le Lascaux 4,
c'est ça. Le plancher a été triché un petit peu, enfin c'est avoué, hein, mais un petit peu surélevé pour que le plafond soit accessible en quelque sorte, plus accessible au regard des visiteurs qu'il ne l'est dans la grotte originale.
En même temps, ce travail de reconstitution est à la fois dans les techniques qu'ont utilisées les peintres pour reproduire ces œuvres, et aussi dans ce que vous avez trouvé. C'est aussi un matériau de recherche pour les préhistoriens que vous êtes.
Absolument.
Ça vous apprend des choses sur ces hommes, sur ces peintures, sur ces grottes.
Oui, et je suis persuadé qu'après ce travail de copie, des thèses, ou des travaux en général, d'archéologues vont pouvoir se faire à nouveau. Je suis sûr qu'il y a des choses nouvelles. Enfin,
relecture ou de ces peintures.
Relecture et lecture de dessins nouveaux qui apparaissent sous les dessins tels qu'on les connaît.
Parce qu'il y a plusieurs couches de dessins.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne le savait pas ou on le savait mal, hein, mais il se trouve que les 20 000 photographies à haute définition qui ont été réalisées en 2012, je crois.
Pour réaliser Lascaux 4, pour le facsimilé.
C'est ça, pour le facsimilé. Ont permis de pénétrer, d'aller au-delà, de traverser les peintures que l'on voit, qui sont immédiatement accessibles, et d'apercevoir autre chose derrière, quoi. Vous savez, comme les rayons X sur certains tableaux du Louvre ou d'ailleurs. Et donc, il y a peut-être une première couche et peut-être d'autres éléments qui ont fait que ce que l'on voit, c'est un ravivement, un ravivage, je ne sais pas comment on dit, des peintures du dessous.
Donc il y aura eu des essais, des tentatives et des reprises,
oui,
peut-être une transmission aussi de ce savoir-faire artistique,
oui, mais ou
de ces croyances.
Simplement le fait que ce soit un sanctuaire en activité, quoi. Moi, j'ai visité un monastère dans une des îles du lac Tana en Éthiopie, et un charmant petit moine m'a fait pénétrer jusqu'au cœur, ce qui normalement n'est pas autorisé, jusqu'au cœur du monastère. Et dans ce cœur du monastère, il y avait un autre petit moine sur une échelle qui était en train de remettre des couleurs à des peintures du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. C'était épouvantable, c'était affreux pour quelqu'un qui
veut garder la mémoire, qui veut étudier l'originel.
Enclin à retenir, reconnaître, à garder les choses dans leur état d'origine.
Mais ce qui veut dire aussi que ces hommes préhistoriques, au fond, ils étaient des hommes, enfin, comme nous, oui, comme nous.
Oui, c'est-à-dire que c'était, comme c'était des sanctuaires, des sanctuaires qui étaient en activité, ils rafraîchissaient les couleurs et ils changeaient éventuellement les motifs.
Et les couleurs, alors justement, vous avez dit que vous avez retrouvé tous les pigments, il y a des couleurs fabuleuses, il y a des rouges, des orangés.
Oui, on a trouvé beaucoup de pigments et représentant probablement l'ensemble de la palette, comme je vous le disais, et notamment beaucoup d'ocre. Et les ocres, ce sont des roches naturelles. Et ces ocres, une fois broyées, donnent évidemment des poudres. Et ces poudres étaient mélangées en fonction des couleurs des ocres. Et on a observé que certaines de ces poussières étaient chauffées. C'est-à-dire que l'ocre chauffé prend encore une autre teinte. Enfin, c'était très raffiné, si vous voulez.
Très raffiné.
Il y a quelquefois un dégradé de couleur qui a une information sur la profondeur du dessin et sur l'éloignement de la bête représentée. Enfin, c'est très élaboré, quoi.
Autour de la question, comment décrypter justement toutes ces couleurs, ces peintures élaborées, ce bestiaire fabuleux, je propose de retourner, Yves Coppens, à Lascaux 4, dans la salle des taureaux. C'est la première salle que le visiteur peut découvrir en pénétrant dans la réplique Grandeur Nature de la grotte de Lascaux. Reportage donc dans la salle des taureaux, réalisé par Alice Milot, avec comme guide, excusez du peu, l'archéologue Jean-Pierre Chadel et le préhistorien Jean-Claude.
Ce ne sont pas des animaux morts, ce sont des animaux qui bougent, ce sont des animaux qui galopent parfois, qui sautent, des cavalcades de chevaux qui reviennent du fond de la grotte et qui reviennent vers nous. On voit même ici, à l'extrémité de ce diverticule axial, on voit ce fameux cheval qui tombe, qui a les pattes en l'air, qui a les oreilles renversées, les naseaux dilatés. On voit bien qu'il lui arrive quelque chose là. C'est tellement bien conservé qu'on arrive à voir les techniques utilisées par les préhistoriques. Sans beaucoup de recherche, on voit que, vous voyez, ici, ils ont frotté pour faire les cornes de ce grand taureau, pour faire le chignon. Ils ont frotté un crayon de manganèse sur la paroi. L'utilisation du pochoir et de l'aérographe, ça a été énormément utilisé dans la grotte. Vous voyez le corps de ce grand cheval rouge ici, la peinture, elle va jusqu'au fond des aspérités entre les cristaux de calcite. Ça, c'est la peinture qui est soufflée. On le voit pour le bas du ventre, vous voyez, ces petites ponctuations successives, c'est la peinture. Chaque fois, ça correspond à un souffle. Et ici, vous avez l'utilisation de caches, hein, d'un véritable pochoir pour obtenir ce contour plus net. Ce sont des techniques qui sont extrêmement modernes. Et vous voyez, c'est entièrement maîtrisé comme geste. Il n'y a pas de reprise, on n'a pas gratté. C'est quelque chose qui est extraordinaire.
Alors vous remarquerez aussi, parce que ça on le trouve sur plusieurs animaux, comment ils ont rendu la perspective pour les pattes. Vous voyez, très souvent, ils ont laissé un blanc pour la patte qui est au second plan, vous voyez, et ça on le retrouve sur des animaux, donc ça donne une certaine homogénéité à Lascaux aussi. Et là c'est une représentation de la perspective qui ne date pas de la Renaissance, hein. Elle est très très ancienne, alors vous le remarquerez, les pattes sont mises en véritable perspective.
La perspective, déjà, il y a 18 000 ans, Yves Coppens, vous voulez réagir? Ces animaux, ils sont en mouvement.
Oui, ceci dit, comme vous le savez sûrement, les peintures, les premières peintures, datent d'une cinquantaine de milliers d'années, enfin peut-être quoi. Ce sont des datations obtenues en Australie.
Les premières peintures rupestres, 50...
Rupestres, oui. Ouais, oui. Ouais, ouais. C'est-à-dire que l'art, ça ne sort pas de rien du tout, hein. Il y a eu beaucoup de choses avant, il y a eu beaucoup de perceptions des formes de plus en plus élaborées. Jusqu'à la projection de ces formes, en quelque sorte, sur des parois ou sur des objets mobiliers. Il y a quelquefois des objets qui circulent et qui ont aussi des gravures ou des peintures. Mais ce que je voulais vous dire en écoutant Jean-Claude et son collègue, c'est que j'ai fait des ateliers avec des enfants. Et bien sûr, on s'amuse à peindre. Et quand on prend la peinture dans la bouche et qu'on la projette en crachant, alors ça, c'est un bonheur. Il vaut mieux, à ce moment-là, avoir de bons tabliers. Mais quel plaisir.
De peindre à la bouche sur les parois de la grotte.
La préhistoire ne peut plus leur échapper, oui.
Une fois qu'ils ont fait ça. Il y a de nouvelles interprétations, justement, aujourd'hui, sur toutes ces peintures. On parle beaucoup on dit que ce serait l'ancêtre du cinéma ou de la bande dessinée. Enfin, c'est vrai que ces peintures, elles sont en mouvement, qu'on les a longtemps vues comme posées, figées. Et en fait, ils sont... Vous parlez de se déplacer dans la grotte, d'un livre mythologique, ou d'histoire, ou de rite, ou de croyance. Mais il y a un rapport avec la bande dessinée, avec le cinéma. Il se serait inventé sur les parois des grottes préhistoriques.
Oui, c'est-à-dire que c'est le mouvement qui est inventé. Et puis le discours, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on passe d'une figuration à une autre, non pas selon la fantaisie du peintre, mais il avait certainement un discours à reproduire, et ce discours, il y a été fidèle, c'est-à-dire qu'il l'a reproduit en fonction de son talent et de son génie, et de façon parfois superbe. Mais ceci dit, il avait en quelque sorte un cahier des charges, avec une histoire à raconter qui était une histoire...
Une Bible, en fait, hein. Enfin, une sorte de Bible,
vous savez qu'on,
sur les paroles des grottes.
On lit les peuples par un livre, on lit les peuples par des mythes d'origine. C'est ce qui fait la cohésion entre les gens. Et il n'y a pas de raison qu'à cette époque, il n'y ait pas cela. Et cela, comme c'était des nomades, ça se trouve en effet dans des sanctuaires, et des sanctuaires qui probablement... n'était accessible de temps en temps qu'à certains privilégiés. Ou...
C'était pas pour tout le monde. Tout le monde ne pouvait probablement pas rentrer dans la grotte.
J'en sais rien, mais je pense que ça n'était pas ouvert sans arrêt à quiconque, et qu'il y avait des cérémonies, et dans ces cérémonies, évidemment, il y avait aussi des chants, des danses, tout ce qui va avec une cérémonie.
On peut pas le récupérer, le son, la musique, les chants, la préhistoire. Il y a des projets pour essayer peut-être de reconstituer ou de réimaginer ce que pouvaient être les chants, les danses.
Oui, moi j'ai toujours espoir de trouver des choses, parce que, vous savez, les objets sont chargés de mémoire, hein, chargés de mémoire. Et petit à petit, nos technologies nous font mieux lire ces mémoires en question, parce que c'est tout ce qu'il faut finalement, c'est savoir lire. Et on lit de plus en plus de choses, et j'ai l'espoir qu'un jour on puisse lire ou entendre la musique de ces grottes et les chants de ces gens.
Elle serait dans ces objets, il y aurait des ondes qu'on pourrait récupérer dans ces objets, et on pourrait, nous à la radio, passer de la musique préhistorique.
Oui, il y aurait peut-être des inscriptions de frémissements de voix au travers du bras et du silex qui grave, comme on grave un disque en quelque sorte.
Donc
peut-être qu'au fond, c'est ça, peut-être qu'au fond
des gravures. Les vibrations de la préhistoire, au fond des gravures.
Oui.
Rêve magnifique d'Yves Coppens sur RFI. Si lointain et si proche, tous ces artistes de la préhistoire nous font rêver. Retour aux sources de notre humanité avant de replonger dans l'univers de ces artistes magdaléniens. On écoute Juliette sur RFI, L'amour en pointillé.
Autrefois, ton pinceau sur la toile fit tomber comme un semis d'étoiles cette image de moi, ce rien, ce leurre, ce tas de petits points de couleur. C'était quand, je ne m'en souviens plus, probable du temps où je te plus et que nous partagions cette piole entre poils qui fume et chat qui miaule. Tu peins, je pose, notre vie est bonne. On n'a pas de soucis, on n'a pas de bonne. Le soir venait, tu n'y voyais plus. Et je te faisais du pain perdu. Il n'y avait du chevalet au pieu qu'un pas à faire, et quoi faire de mieux. Odeur d'amour, odeur de tambouille se mêlait à celle de ta barbouille. Quand on se donna un pointilliste, faudrait peut-être pas s'illusionner, croire qu'après s'être abandonné changer en féministe, parce qu'un peintre pointilliste, ça ne peut évidemment donner que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour.
L'amour en pointillé, signé Juliette sur un fille. Juliette,
oui,
Yves Coppens.
Il se trouve que je l'ai rencontrée il y a quelques années, je pense. C'est parce qu'elle avait souhaité me rencontrer, étant donné qu'elle était en train de composer une chanson sur Lucie.
Notre grand-mère à tous, pour le dire rapidement, que vous avez découvert.
Donc bien sûr, on s'est vus, et moi j'aime beaucoup à la fois son inspiration et puis ses réalisations. Elle est discrète, elle est plus discrète qu'elle ne le fut, et c'est dommage, elle n'est plus très...
Nous aussi, on aime bien Juliette sur RFI, on avait envie de l'entendre en clin d'œil à tous ces artistes de la préhistoire autour de la question comment reconstituer la grotte de Lascaux. Je propose, Yves Coppens, un dernier éclairage in situ dans l'atelier de Lascaux 4, devant la scène qui est peut-être la plus énigmatique, celle de l'homme à tête d'oiseau, sexe en érection, l'homme au bison, situé au fond du puits de Lascaux, très difficile d'accès. Arrêt sur le facsimilé donc de l'homme au bison, au micro d'Alice Milo avec la conservatrice de la grotte de Lascaux, Muriel Mauriac.
On a ici une composition absolument remarquable, un unicum ou presque dans l'art pariétal, puisqu'on a une représentation humaine qui est quelque chose de très très rare dans l'art pariétal.
Alors on peut s'approcher.
On a du côté droit un bison éviscéré, les viscères qui se répandent, les tripes à l'air, transpercées par une grande lance, la tête baissée, prêt à encorner l'homme, cet homme à la tête d'oiseau, très simplifié, très schématique dans son rendu, le sexe en érection, qui semble terrassé par le bison. Donc Est-ce une représentation de scène de chasse qui aurait mal tourné? Est-ce une représentation symbolique de l'âme du défunt qui s'envole, comme on l'a à travers toutes les sociétés, hein? L'oiseau souvent symbolise l'élévation de l'âme vers un au-delà. Donc est-ce qu'on est ici sur ce type de symbolique? Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir le caractère monochrome de ces peintures, contrairement à la plupart des autres secteurs de la grotte où on est sur de la polychromie. Ici, on n'a que de l'oxyde de manganèse, donc cette peinture noire. Et puis, ce qui interroge également, c'est le caractère extrêmement schématique des figures, en particulier de cet homme. On peut se poser la question. Alors, il y a de multiples hypothèses qui peuvent évidemment surgir.
Quelle est la vôtre, Yves Coppens ? C'est de multiples hypothèses, hein, nous rappelle Muriel Mauriac, sur cette représentation humaine très rare, hein, dans la rupestre.
Oui, ben, je n'en ai pas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une scène. Et c'est exceptionnel dans cet art paléolithique. Ça veut dire que l'art suivant, qu'on appelle néolithique, reproduit volontiers des scènes. Et ça permet d'ailleurs de comprendre un peu comment vivaient ces gens, dans quelles conditions, de quelle manière, etc. Et là, c'est une scène dont exceptionnelle, qui en effet représente ce que Muriel Mauriac vous a raconté. Moi, je pense plusieurs choses. Je pense d'abord que 6 mètres de décalage par rapport au plancher de l'autre grotte, ça peut être une autre grotte, ça peut être une grotte différente.
Avec donc ce puits serait une autre grotte que la grotte de Lascaux.
Avec une entrée qu'on n'a pas retrouvée encore, parce que le karst, c'est un karst, c'est-à-dire que l'eau ne cesse de creuser des trous, et un trou entre la grotte principale, telle qu'on la connaît, et puis ce puits, ça peut exister. Les styles ont l'air comparables, donc ça serait quelque chose de contemporain. Par ailleurs, ça raconte véritablement une histoire. Le bonhomme avec une tête d'oiseau, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'homme est omniprésent.
Il n'est pas représenté, mais il est omniprésent. C'est ça que vous dites, Yves Coppens, dans ces grottes.
Il est représenté, mais il est représenté caché, il est masqué, il ne se montre pas. Il se montre soit sous la forme totémique, là, avec sa tête d'oiseau. On connaît ça dans bien des sociétés actuelles, hein. Et puis, ou bien il est représenté sous une forme semi-animale, semi-humaine, mais il est toujours un peu, il est toujours discret, il est toujours planqué dans un coin. Je me rappelle de ma visite de Nio. La grotte de Nio a un très très long couloir avant d'arriver dans une grande chambre qu'on appelle la chambre noire. Et je suis passé devant un certain nombre d'alcôves qui représentaient aussi dans lesquelles il y avait aussi des représentations de rocs, de chevaux, enfin, comme dans les autres grottes. C'est la même faune et le même bestiaire. Et puis je me disais, c'est curieux que le bonhomme ne soit pas là. Et je l'ai trouvé. Il était là, lui, il m'avait vu depuis longtemps, mais moi, je l'avais pas encore reconnu. Mais il était dans un coin, comme s'il était planqué, comme s'il veillait, comme s'il surveillait.
Donc vous qui avez arpenté tant de grottes préhistoriques, vous dites qu'au fond, les hommes sont toujours là, même si on ne les voit pas, il faut les chercher. Enfin, ils sont pas, ils se donnent pas.
Ils sont là, enfin, ça correspond sûrement à des critères de leur croyance.
Mmh. Peut-être à des tabous.
Regardez l'art musulman actuel, pas les premiers, hein. Mais l'art musulman actuel ne représente jamais l'homme. Mmh. Et là, c'est un petit peu pareil, tout en étant un peu différent. C'est-à-dire que l'homme est représenté, mais de manière si discrète que normalement, on ne l'aperçoit pas, au moins au premier regard.
Et là, en l'occurrence, dans la grotte de Lascaux, il est très schématique.
Il est très schématique, mais il a une tête qui n'est pas non plus visible. Et à côté de ça, dans des plaquettes, c'est-à-dire des objets mobiliers dont on parlait aussi, notamment d'une grotte qui s'appelle la grotte de la Marche, il y a des quantités de figurations humaines très schématiques, très, presque caricaturales. Donc l'homme ne se représente jamais sous sa forme réelle, alors que les animaux sont somptueux. Mais les animaux sont aussi quelquefois...
schématiques
Oui. C'est-à-dire que la tête a une certaine taille, le corps en a une autre, c'est pas fait n'importe comment. C'est pas une erreur dans le dessin. C'est une
représentation symbolique qui doit avoir une signification.
C'est une signification, oui, c'est ça. Oui.
Et pour vous, Yves Coppens, quelle est, alors je sais pas, dans cette grotte de Lascaux, l'image, la peinture, la gravure, le signe qui vous touche le plus ou qui vous étonne le plus, qui vous pose le plus de questions?
Oui, je vais vous dire trois choses. La première, c'est que quand on rentre dans cette grotte, on est d'abord émerveillé comme devant dans une galerie de peinture, comme dans un musée, devant les toiles d'un maître et de son atelier. Et deuxième chose, on est dans un sanctuaire. Et j'ai été amusé parce qu'il se trouve que pour un anniversaire de Lascaux, j'y suis descendu avec le président Sarkozy. Et dès que Nicolas Sarkozy s'est trouvé au fond, il a changé de ton, il a baissé la voix. Et je me suis moqué de lui en disant « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Évidemment, quand on est dans un temple, dans une église, dans une synagogue, on baisse la voix parce qu'on est dans un lieu sacré.
Sacré, chargé.
Donc c'est un sanctuaire. En ce sens, il y a évidemment un calme, un silence, une sérénité qui est présente. Et la troisième chose, c'est la peur. Je l'ai souvent dit, ça a étonné les gens. Mais quand vous êtes, c'est un peu ce que disaient les collègues tout à l'heure, quand vous êtes coincé dans ce diverticule axial entre des parois qui sont peintes et des animaux qui galopent et qui hurlent et qui vous emmènent vers leurs cieux, c'est impressionnant. C'est impressionnant.
L'effroi qui
gagne. Parce qu'on ne sait pas trop vers où ils vous emmènent. Donc c'est un petit peu risqué quand même. Et je crois que j'aurais peur si je passais une nuit là-dedans. En tout cas, pour répondre à votre question, sur les petits poneys que j'aime bien.
Les petits poneys.
Les petits poneys qui sont superbes. Je connais les Shetland et les petits poneys des Shetland et ça ressemble à ces bêtes-là.
Merci infiniment. Je ne peux qu'inviter nos amis auditeurs, s'ils passent en France, à aller visiter donc Lascaux 4, réplique à l'identique de la grotte de Lascaux, le nouveau centre international de l'art pariétal qui vient d'ouvrir ses portes au public. Merci infiniment Yves Coppens d'être venu partager émerveillement et effroi et petits poneys avec nous. À bientôt. Je cite aussi peut-être ce livre, l'histoire, la grande histoire de Lascaux que vous avez préfacé aux éditions Sud-Ouest. Merci à vous Yves Coppens, vous revenez quand vous voulez. Dans quelques instants, un nouveau journal.
Merci.